Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Bonjour à tous, bienvenue dans Estelle Midi sur RMC et sur RMC Story. C'est le canal 23 de la TNT. Nous sommes en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris. Estelle, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle sera de retour avec nous dès lundi prochain. Autour de moi, déjà, il y a du public. Vous pouvez vous faire entendre un petit peu, qu'on vous entende.
Bravo Rémi.
Bon, c'est un franc succès pour commencer.
Ça te
prépare.
Alfred
Orange est à mes côtés, journaliste RMC qui va nous donner toutes les infos pour tout comprendre. Salut Alfred.
Salut Rémi, salut bon. À tous.
Daniel Riolo, journaliste RMC, on l'a déjà entendu. Salut Daniel.
Salut Rémi, salut tout le monde.
En forme ?
Très bien.
Bon, Perico Legas, journaliste à Marianne.
Oui, mais trois heures de plateau sans rien boire, je me suis dit que j'allais avoir un mal à tenir, alors j'ai pris quelques provisions pour le séjour.
Et je vois notamment que tu as des bêtises de chez moi.
Bêtises de Cambrai, et puis le vieux Lille quand même, faut mettre un peu de parfum.
Alors, je pensais qu'un pas dans le salon de l'agriculture et tous les produits étaient fournis à porter sur un tapis rouge. T'es chez toi ici.
Mais c'est le cas.
Et attends, il n'y en a pas assez, je m'attendais à ce qu'on ait beaucoup plus.
Dans le stand de France.
Le vieux Lille, je connais bien, au bout de trois heures d'émission, je crois qu'il va commencer à bien sentir. Et Yael Mellul est avec nous, ancienne avocate, présidente de l'association Femmes et Libres. Salut Yael.
Salut Rémi, salut tout le monde.
Dans un instant, on va parler de ce chiffre, plus 20% de fréquentation rien qu'au mois de février au Resto du Cœur face à la hausse des prix. Avez-vous peur de basculer dans la précarité? Vous nous appelez au 32-16 à 12h30. On va parler de Noël Le Graët qui veut porter plainte pour diffamation contre la ministre des Sports. Va-t-il trop loin? Vous avez entendu, hein, Daniel Riolo est avec nous. Je crois que Noël Le Graët va encore une nouvelle fois être rhabillé pour l'hiver. À 13h, l'immigration. Gérald Darmanin veut durcir les conditions du regroupement familial. A-t-il raison? À 13h30, le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. À 14h, l'effondrement de la filière agricole bio. On est au salon de l'agriculture, évidemment, on va en parler. Le bio a-t-il encore un avenir? À 14h40, les immanquables d'Alfred Orange. Et puis on joue aujourd'hui, Alfred.
Exactement, RMC vous offre vos places pour une affiche de rêve mercredi 8 mars. Le PSG se déplace à Munich pour affronter en match retour le Bayern en Ligue des Champions. Et bien nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le voyage à Munich avec Oussem Moussaïev, de l'after foot, la rencontre avec Jeannot Rességui avant le match et votre place pour le match Bayern-PSG. Restez bien à l'écoute toute la journée sur RMC dès que vous entendez ça. On n'a pas de son, mais c'est
ça marche bien aujourd'hui. Ah, oui.
Vous aurez donc 5 minutes pour vous inscrire en envoyant foot au 7-32-16. Foot au 7-32-16.
RMC Estelle Midi.
On commence avec le chiffre du jour, plus 22%. C'est la hausse de fréquentation des Restos du Cœur cet hiver. L'explosion des prix n'y est évidemment pas étrangère. Et Alfred, la précarité touche des profils de plus en plus variés.
Oui, ce sont principalement des familles avec de très jeunes enfants qui viennent toquer à la porte. Sur un an, les distributions alimentaires dans les espaces publics ont augmenté de 25%. Pour savoir en fait de qui on parle, sachez que la moitié des personnes accueillies par les restos a moins de 25 ans. Même constat dans les banques alimentaires, la fréquentation a augmenté de 10% en 2022. Une personne sur cinq est en emploi. Ce sont donc des gens qui travaillent, qui ont un salaire, qui viennent quand même demander de l'aide. Le gouvernement se dit conscient du problème. Il vient de lancer un plan baptisé Mieux manger pour tous. Dans ce programme, 60 millions d'euros vont être débloqués pour aider les 4 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire. C'est une goutte d'eau pour l'association Famille Rurale qui affirme qu'il faudrait une aide de 7 milliards d'euros chaque année pour permettre aux 9 millions de Français en précarité alimentaire de pouvoir manger sainement et à leur faim.
Face à la flambée des prix, avez-vous peur de basculer dans la précarité? Flambée des prix, c'est pas que l'alimentaire, évidemment, c'est l'énergie, c'est le chauffage, c'est le carburant quand on est travailleur pauvre. Yael, vous nous appelez au 3216 et Yael, je vais d'abord me tourner vers toi. Nous, on a la chance d'avoir un métier, d'avoir un salaire, des salaires convenables en tout cas. On n'est pas du jour au lendemain menacé par cette précarité, mais on sait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens, on vient d'entendre avec Alfred, peut-être de ceux qui nous écoutent, qui peuvent du jour au lendemain, par le biais d'un accident de la vie comme on dit, le chômage, un divorce, une séparation, la maladie, qui peuvent de plus en plus sombrer facilement, j'allais dire, dans la précarité. Est-ce que tu en as conscience de ce phénomène-là ?
Absolument. Nous, on est évidemment privilégiés. Donc, je n'ai pas peur pour moi, je n'ai pas peur pour nous ici. Mais j'ai peur pour une grande, de plus en plus nombreuse partie des Français qui sombrent dans la fragilité et la précarité. Une part de la population qui jusqu'à présent n'était pas menacée justement par ces problématiques. Cette problématique qui est en réalité celle de manger. Je veux dire, aujourd'hui, les chiffres qu'on a à notre disposition, ils sont absolument catastrophiques. Depuis, en 10 ans, le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a triplé. Le nombre de sans-abri a doublé. On est à 330 000 sans-abri, 4 millions de mal-logés. Tout ça, ça participe d'une paupérisation de la population qui ne touchait pas forcément la population qui jusqu'à présent était protégée, la classe moyenne. Aujourd'hui, c'est la classe moyenne qui est touchée, qui n'a plus les moyens de faire face à cette inflation qui explose. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce mois de mars. Aujourd'hui, le fameux mars rouge,
la flambée des prix,
avec la flambée des prix dans l'alimentaire,
les négociations entre industriels et grandes distributeurs,
jusqu'à ce soir. On peut arriver à des augmentations de 17%, de 20%. Et ce qui me, moi, c'est dans les chiffres qui sont sortis aujourd'hui des Restos du Cœur, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Et c'est qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, des femmes avec des enfants, beaucoup de très jeunes enfants. Et encore une fois, ce sont les jeunes, les femmes et les enfants qui sont le plus touchés. Donc, vous avez parlé d'une aide des pouvoirs publics, mais j'ai encore une fois l'impression qu'on ne mesure pas la gravité de ce phénomène. Et quand le peuple a faim, eh ben, on est quand même au début de quelque chose de grave et d'un écroulement possible.
Daniel, quand tu dis on ne mesure pas la gravité, c'est très bien. Je crois que la semaine dernière, je disais qu'on passe une grande partie de notre temps, pas que sur ce plateau, mais sur énormément de plateaux télé, radio, à essayer de mesurer la gravité des choses. Mais finalement, est-ce qu'on a des explications? Est-ce qu'on a des débuts de solutions? Je ne sais pas si toi tu en as, moi j'en ai pas. Très humblement, on fait face à ce genre de situation, ce genre de discours, sans finalement essayer de comprendre. Moi, la nouvelle là, de cette augmentation des gens qui ont besoin de l'aide alimentaire, je comprends et je comprends pas. Je comprends parce que le contexte économique et social nous pousse à le comprendre. L'inflation dont tu as parlé, qui visiblement menace d'être encore plus sévère dans le mois qui va venir. Et je comprends pas parce que on continue d'être le pays roi de la dépense sociale. Donc ça veut dire qu'on aide les gens. Il n'y a pas un autre pays au monde qui donne autant. 45,2% des prélèvements obligatoires. Alors on va me dire oui, c'est pas les mêmes caisses, donc ça ne coule pas ça ne coule pas partout pareil. Mais à partir du moment où il y a de la dépense sociale, si je ne t'aide pas pour ça, je t'aide pour ça. Si je t'aide à ce moment-là, je t'aide à un autre moment. Donc l'argent, très honnêtement, je crois énormément d'experts économiques pourraient le dire, l'argent en France coule à flot.
Mais on dépense
mal. Mais où va-t-il? C'est ça la grande question. On est par richesse par habitant 26e pays au monde. Bon, c'est pas génial quand pour une puissance économique comme la France. La dépense sociale en France, elle absorbe quasiment tout. 33% du PIB global. Quand la défense, la sécurité et la justice, c'est 3%. C'est là, visiblement, qu'il y a un problème.
30%, je vérifie le chiffre à l'instant, Daniel, pour aller dans ton sens, 30% des personnes qui pourraient prétendre à des aides sociales ne les perçoivent pas. Pourquoi pas? Donc, parce qu'elles n'ont pas droit. Elles ont droit, mais elles ne savent pas.
Quand on est dans la difficulté, c'est souvent parce que on n'a pas de travail. C'est généralement la raison. Quand tu ne peux pas subvenir à tes besoins, c'est la raison principale qui doit te conduire à avoir besoin d'une aide ou de l'aide alimentaire. Et pourtant, le chômage baisse et des offres d'emploi à pourvoir, il y en a énormément.
Il y a des pénuries dans certains secteurs.
Voilà. Donc, tout ce système fait qu'on peut, de l'extérieur comme ça, quand on n'a pas le nez dedans, ne pas comprendre. C'est pour ça que je disais, je comprends puisque je vois, je ne comprends pas quand je sais ce qu'il se passe dans notre économie.
Perico Legas.
On est toujours étonné, en 2023, en République française, d'avoir des gens qui ont recours à la soupe populaire qu'on voyait dans les images d'archives de 1929.
On nous parle même maintenant de chèques alimentaires.
D'accord, mais comment en est-on arrivé là, après les programmes qu'on a mis en place depuis 40 ans, le programme européen, l'Union européenne, enfin, ce marché commun, On nous avait dit que toutes ces tragédies seraient évitées, même s'il y a eu une guerre, même s'il y a eu une épidémie.
Bah, la pauvreté baisse partout dans le monde, hein.
Oui, elle baisse un peu dans le monde, sauf en France, alors. Alors, ben voilà, faut me donner l'explication.
Donc, il n'y a pas forcément entre, en France, entre l'aide alimentaire et la pauvreté globale, il n'y a pas forcément de lien.
Non, mais quel échec pour le libéralisme classique, quel échec pour l'Union européenne, quel aveu d'impuissance. Et enfin, on reconnaît que l'argent ne va pas forcément à ceux à qui il est destiné. Alors, c'est la loi du genre, hein. Ça a toujours été comme ça dans le monde occidental. Parlons pas des pays.
Les dépenses sociales, elles vont à qui?
Mais les dépenses sociales vont à des gens qui les reçoivent. Mais sur quels critères? Sur quelle base? Qui finance? À partir de
donc
quelle
le
richesse...
problème, c'est pas l'argent, c'est la répartition.
Alors, à partir de quelle richesse nationale?
C'est la façon dont on utilise l'argent public, c'est ça, Périphérie.
Et d'abord, ça va à qui? Bien sûr. Et bah qui a droit? Et je vais même poser la question, dans une période où on vous dit les prix augmentent, l'inflation, les matières premières. Est-ce que tous les gens qui vont au restaurant du cœur, est-ce qu'il ne va pas falloir, à un moment donné, que les restaurants du cœur s'assurent de la légitimité de la demande?
Absolument.
Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on
on
regarde
pas. Faire
pas
une sélection,
on ne veut pas,
possible,
on va le faire parce que
c'est pas possible.
On ne va pas faire de critérium au restaurant du cœur.
Non, mais c'est le principe des restos du cœur. On ne demande pas, on accueille ceux qui viennent.
Avec le risque que des gens qui ne sont pas vraiment nécessiteux d'y aller puissent profiter de cette gratuité. Dès que c'est gratuit,
je ne suis pas sûr.
Oh, je ne suis pas sûr qu'il y ait des profiteurs. Vraiment.
Pour aller dans son
Je n'ai pas dit profiteurs uniques. Je n'ai pas dit que profiteurs. Je dis des gens qui peut-être pourraient s'en sortir autrement que d'aller chercher la nourriture gratuite.
Franchement, tu ne vas jamais.
Pour avoir connu des gens
avoir connu des gens qui travaillaient au Resto du Cœur,
oui,
discuter avec eux, franchement, ce
au début,
cœur,
on, non mais je parle de cette année,
c'est la dernière,
on n'y va jamais de gaieté de cœur, et je peux te dire que les gens qui y vont, pour beaucoup, la première fois qu'ils y vont, ils ont un sentiment de honte, un sentiment de gêne.
Jusqu'à il y a quelques mois, oui. Aujourd'hui, avec l'augmentation du coût de la vie, des paniers premiers et l'inflation, il y a des gens qui peuvent se dire, eh ben moi aussi j'y ai droit.
Allez, on part de la hausse de la fréquentation des Restos du Cœur, hein, cet hiver, face à la flambée des prix. Avez-vous peur de basculer dans la précarité? Vous nous appelez au 3216 et Bernard est avec nous. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour à vous.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Bernard, vous nous appelez de Marseille, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Vous êtes retraité?
Je suis retraité et je suis président d'une association qui fait de l'aide alimentaire d'urgence. Avec une très bonne expérience des Restos du Cœur, parce que j'y étais pendant 9 ans et j'y étais pendant 4 ans président des Bouches-du-Rhône.
C'est quoi le nom de votre association actuelle?
Vendredi 13.
Vendredi 13, d'accord.
Qui a distribué l'année dernière, je peux le dire sereinement, 509 000 repas, l'équivalent de 500 000 repas. 509 000 exactement.
Sur Marseille ou sur le
sur, sur Marseille et La Ciotat, oui.
D'accord. Bernard, est-ce que vous avez rencontré de plus en plus de gens autour de vous qui viennent de tomber dans la précarité ou qui craignent d'y tomber?
Alors, il y en a de plus en plus, notamment des personnes, ça a été évoqué un petit peu avant, qui ont déjà un métier, qui était borderline au niveau des revenus, qui s'en sortaient à peu près, et vu l'augmentation du coût des denrées et de l'énergie, mais qui s'en sortent plus, et qui malheureusement sont orientés vers l'aide alimentaire. Alors, la différence avec les grandes associations nationales, c'est que nous ne sommes pas des professionnels pour étudier les dossiers des personnes, on s'appuie systématiquement sur les travailleurs sociaux de toutes les structures de Marseille. Et eux connaissent les familles, connaissent les revenus, connaissent les situations, et c'est eux qui nous orientent le public pour l'aide alimentaire. Mmh. Donc on a une garantie une garantie par rapport à ça.
Donc de plus en plus, vous dites de bénéficiaires de votre association qui sont des travailleurs pauvres, comme on dit.
Alors, il y a les travailleurs pauvres, il y a les étudiants, hein, on en a de plus en plus d'étudiants. Ouais. On distribue à 350 étudiants toutes les semaines. On a des familles monoparentales, ça a été évoqué.
Est-ce que vous avez l'occasion...
Ça me fait rigoler quand j'entends qu'une famille monoparentale, elle peut trouver un travail. Quand la dame est seule avec 4 enfants en bas âge, je ne sais pas comment elle peut travailler. Et heureusement qu'elle a les aides sociales, qu'elle les touche, et heureusement qu'il y a des associations qui les aident à se nourrir, sinon les gens ne peuvent plus vivre du tout. Hein.
Alors, on n'a pas parlé des personnes âgées aussi. Bernard, vous m'entendez, Bernard?
Oui.
Quand vous rencontrez ces gens directement, ou alors ce que vous rapportent les gens qui travaillent autour de vous, les nouveaux entrants, j'allais dire, dans la précarité, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils disent, comment on bascule?
En fait, ils n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Voilà, et ils essayent de se tourner vers l'associatif par tous les moyens. Donc ils vont, ils se tournent vers l'associatif, et c'est pas systématique, comme je dis, il faut que ça passe par une validation de structures professionnelles pour les orienter. Mais de plus en plus, on a cette typologie. On rencontre même des personnes qui travaillent, qui vivent dans leur voiture, qui dorment dans leur voiture, et qui le lendemain matin vont travailler, et qui viennent aussi récupérer de l'aide alimentaire.
Merci Bernard de votre témoignage. Bernard qui était avec nous au 32-16, qui est donc du côté de Marseille. Arnaud nous rejoint au 32-16. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC et sur RMC Story. Vous êtes viticulteur dans le Var.
Tout à fait, oui, à Grimont exactement.
Bon. Arnaud, vous-même, est-ce que c'est compliqué en ce moment ?
Alors non, moi j'ai vraiment la chance de pouvoir gagner ma vie avec mon métier, d'être dans un secteur qui, pour l'instant, on arrive à dégager des marges et à pouvoir vivre convenablement, même si je vous avoue que avec les conditions actuelles et comme vous, enfin le débat c'est ça, c'est les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Je me dis que nous qui faisons du vin, à un moment donné, peut-être que le vin, ce sera pas à la priorité des gens. Quoi. Donc malgré que tout va bien aujourd'hui, qu'on vend du bon
rosé en
Provence, aujourd'hui, je me dis que voilà, ça sera peut-être pas la priorité demain. Donc la précarité, non, j'ai la chance de pas la connaître pour l'instant.
Il y a une inquiétude quand même. On sent qu'il y a une inquiétude quand même.
Ouais, moi en tout cas particulièrement, je me soucie du fait que les gens aujourd'hui, s'ils n'ont pas de quoi s'acheter à manger, pourquoi ils vont aller acheter du vin, quoi. Vous voyez, même si c'est un plaisir, même si nos vins de Provence ils sont très bons, et enfin c'est la reconnaissance n'est plus à faire, je veux dire. Mais aujourd'hui, si j'ai pas de quoi m'acheter, de quoi manger ou nourrir mes enfants, je vais pas aller m'acheter une bouteille de vin, quel que soit son prix, vous voyez. Donc, mais c'est vrai que à la base j'ai envoyé un message que, par rapport à votre débat, je rentre de mon voyage de noces au Vietnam, j'ai cette chance-là, et je me suis rendu compte que là-bas, ils ne vivaient pas du tout de la même façon, au niveau de l'alimentation, tout du moins. Allô ?
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC et sur RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Nous sommes toujours en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris. On parle à présent de la contre-attaque du jour. Mais avant, je crois, Alfred, que tu as quelque chose à nous dire.
Oui, pour vous remercier de votre fidélité, on va vous offrir deux places pour venir découvrir cette 59e édition du salon de l'agriculture et surtout ce stand de cette magnifique région des Hauts-de-France. France.
Je te le confirme.
Voilà.
La plus belle des régions de France.
Qui est en plus nommée Région européenne de la gastronomie 2023. Et puis, si vous avez la chance d'être là, autour de ce studio, dans ce stand des Hauts-de-France, on va vous offrir un panier garni rempli de produits régionaux, offert par Saveur en Or et Terroir. Hauts-de-France, il y aura des gaufres, de la limonade, du pâté, de quoi se régaler.
Et il y a même un peu de bière, évidemment, à consommer avec modération, mais elle est là.
Une belle blonde.
Évidemment. Allez, on parle de la contre-attaque du jour, alors même qu'il vient d'être écarté de la présidence de la Fédération Française de Foot. Noël Le Graët réplique, Alfred. Il envisage désormais de porter plainte contre la ministre des Sports.
Oui, à peine débarqué de la présidence de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët contre-attaque dans une interview accordée au journal Le Monde. Le Breton se dit victime d'une cabale politico-médiatique bien organisée. Dans son viseur, la ministre des Sports, qu'il accuse d'avoir menti sur les accusations de harcèlement qui le visaient. L'ancien dirigeant a donc annoncé son intention de porter plainte contre Amélie Oudéa Castéra pour diffamation. Noël Le Graët accuse la ministre d'ingérence pendant les enquêtes dont il a fait l'objet. Des accusations balayées ce matin par la ministre des Sports chez nos confrères de RTL. Je ne l'ai jamais accusé de harcèlement. C'est affligeant, lui a rétorqué Amélie Oudéa Castéra.
Noël Le Graët va-t-il trop loin ? Vous nous appelez au 32-16. J'aurais pu me tourner vers Perico Legas ou vers Yael Belul, mais je ne sais
mais
pas
y a
pourquoi.
Mieux. Y a
je vais me tourner tout de suite vers Daniel.
Dans le choix du jour.
Daniel,
il y a plus frais.
Daniel, on marche sur la tête ou pas ?
Et quel serait l'objet de la cabale ? Et pourquoi en fait ?
Ouais.
Au nom de quoi la ministre aurait décidé d'avoir la tête de Noël Le Graët ? Quel serait le mobile ? Puisque c'est ça qu'il invoque dans son interview. Pourquoi ? Pourquoi elle lui en voudrait personnellement ? Donc évidemment que la ministre a raison quand elle dit que c'est affligeant. Rappelons quand même ce qui s'est passé au début. Alors nous, dans le milieu, on sait depuis longtemps la façon dont est gérée la 3F. On a depuis des années...
Elle est gérée comment ?
Alors, au niveau du ça va être trop long, Rémi. Ouais, on va dire qu'au niveau du management humain, c'est entre sexisme, autoritarisme et, pour faire simple, sorte de, je dis bien une sorte de, parce que c'est un mot qui est un petit peu fourre-tout, mais de système mafieux, où en gros on fait bosser les amis, que ce soit pour le côté business, même le système informatique, c'est une entreprise amie. Principalement, il faut que ce soit beaucoup des Bretons à la Fédé. Les postes qu'on donne aux entraîneurs de jeunes, le rapport aux femmes. Ce serait vraiment très très long de faire tout l'inventaire du système Le Graët. Donc il y a, au début de l'année, parce que ça s'est accumulé et que les guerres internes ont mené à une situation où les gens parlent de plus en plus et où nous, journalistes, recueillons de plus en plus de témoignages, notamment après la Coupe du Monde 2018, où visiblement le succès a fait un peu péter le boulon à tout le monde. Les excès ont eu lieu dans tous les sens, on s'est cru un petit peu tout permis. Et à travers ces excès, notamment ce plan de licenciement qui a suivi la période Covid, des gens ont commencé à parler. Les journalistes ont commencé à écouter ceux qui voulaient parler. Et au milieu de ces différentes révélations et enquêtes, au mois de septembre, la ministre a voulu se saisir du dossier. Ce qui est tout à son honneur d'ailleurs, puisque jusque-là, moi je reprochais toujours au ministre des Sports de ne jamais s'occuper de la première fédération en France et du sport le plus populaire au monde. Culturellement, on a, et historiquement en France, on a toujours voulu nommer des ministres qui n'avaient rien à voir avec le football. Comme si c'était trop donné au foot qui avait beaucoup par ailleurs, et on nommait des gens qui souvent n'y comprenaient rien. Et si en plus ils n'aimaient pas le foot, c'était peut-être un avantage supplémentaire. Donc en gros, Noël Le Graët et d'autres présidents avant lui, mais surtout lui depuis 12 ans, c'était une sorte de patron tout permis qui, en plus, lui, connaissant son caractère, ne veut jamais parler au ministre qu'il méprise profondément, peu importe que ce soit une femme, un homme ou qu'il soit. Lui, il veut parler directement au président. Donc, la ministre se saisit du dossier. Elle voit qu'il y a ces enquêtes. Elle dit, bah tiens, pourquoi pas un audit. Un audit, ça existe dans la fonction publique. On nomme des inspecteurs qui mènent une enquête, qui ne font pas que recopier les enquêtes journalistiques, qui vont écouter tous les gens qui ont parlé aux médias et même d'autres. Parce que moi, personnellement, pour le livre que je suis en train de terminer, j'ai rencontré énormément d'acteurs qui ont travaillé à la Fédé. Mais tous n'ont pas voulu me parler. J'ai notamment en tête un témoignage très fort d'une femme qui n'a pas voulu. Elle me dit, non, je ne le ferai pas. Et je lui ai dit, mais est-ce que aux inspecteurs, vous allez parler ? Elle me dit, oui, aux inspecteurs, je ne pourrais pas faire autrement. Parce que c'est l'État qui me demande, ça peut donner lieu à des enquêtes, donc là, j'irai. Donc, énormément de gens ont parlé. Donc, quand lui, ensuite, avec son avocat, vient dire, je n'ai rien fait, il ne s'est rien passé, c'est une cabale, tout ça va tomber à l'eau.
Un complot médiatico-politique organisé depuis plusieurs mois.
Voilà. Donc, que finalement, hier, il ait droit à cet hommage absolument... Franchement, j'ai pas d'autre mot que gerbant des membres du COMEX qui finalement sont sa famille, puisque c'est lui qui les a nommés.
Et puis il ne part pas parce qu'il est au siège parisien de la
CIPA. S'il n'a rien fait, et si ses amis du COMEX sont persuadés qu'il n'a rien fait, pourquoi part-il? Pourquoi part-il? Si après tout, tous lui rendent hommage et disent qu'il a très bien travaillé, c'est pas quatre articles de journalistes qui vont le pousser dehors. Il peut très bien rester, laisser passer la vague et rester en place. Donc c'est bien parce que les gens du COMEX ont compris que trop, c'est trop, et qu'à un moment, on ne pouvait plus supporter d'avoir un patron pareil, et donc ils l'ont convaincu de sortir.
Yael Mellul.
Alors moi, les propos tenus par Le Graët relèvent d'une stratégie de défense à la fois, enfin aussi classique qu'affligeante de ce type de, on va dire, de manipulateurs lorsqu'ils sont débusqués lorsqu'ils sont mis à nu. Et c'est ce qui est le cas en réalité aujourd'hui pour Le Graët. Parce que, et la ministre l'a très bien rappelé ce matin dans son interview, elle a rappelé qu'il y a un audit qui a été fait dans le respect du contradictoire, qui a duré 4 mois, qui a eu 115 auditions qui ont été réalisées et qu'à la suite de cet audit, c'est le parquet qui s'est saisi et qu'il y a une enquête préliminaire qui est ouverte sur la base du harcèlement moral et sexuel qu'aurait fait subir le Gret à des femmes. Donc, à l'heure où on parle, il y a une enquête qui est en cours. Donc, forcément, ça déstabilise complètement le Gret qui, et d'ailleurs Daniel l'a rappelé, a bénéficié d'une impunité totale pendant plus de 10 ans, en réalité. C'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, eh ben, son système, il commence un petit peu à s'effondrer. Et donc, eh ben oui, évidemment, qui contre-attaque avec l'argument le plus primaire, mais vraiment le plus primaire de complot politique. Moi, je l'ai vu quasiment dans tous les gros dossiers où étaient mis en cause des personnalités dans tous les domaines politiques, artistiques, cinématographiques. Ils ont tous la même défense. Donc vraiment, je pense qu'il ne va tromper mais personne.
Perico Legas.
La plainte en justice est souvent le subterfuge qu'utilisent des gens en difficulté pour créer un contexte de communication qui permet de semer le trouble. Non, moi, la vraie question qui suis néophyte et soumis à l'expérience de mes confrères du sport, est-ce que, parallèlement à ça, le Gret, ça fait 10 ans qu'on me dit que c'est un escroc, mais bon, on touche à rien. Est-ce qu'on a mis en place, à partir de l'affaire Le Gret, est-ce qu'elle va servir au sport français, au football en particulier, que ce soit l'occasion de mettre en place des structures qui empêchent que ce massacre, que cette orgie abominable qui touche un secteur de notre vie quotidienne, le football, qui est essentiel. Voilà. On ne peut pas salir un sport aussi populaire, le symbole vraiment social français, en laissant aux mains de gens aussi peu recommandables, qui se sont comportés à bien des points de vue d'une façon incompatible avec les fonctions qu'ils ont eues et qui sont des fonctions publiques, quelque part, sans qu'elles soient gouvernementales, c'est des fonctions officielles. Est-ce que, Daniel, est-ce que le gouvernement, les instances sportives ont mis en place, sans aller jusqu'aux mots états généraux, une réforme de cette présidence et cette fédération qui empêche que ça se reproduise? Ou alors, ben on aura un nouveau Le Gret, puis on dira, ah ben oui, il y avait eu Le Gret, il avait porté plainte, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait pour empêcher ça? Parce que quand on dénonce à ce point-là, c'est très bien de dénoncer, de le jeter en pâture, de le condamner, il est responsable, il est coupable. Mais ça veut dire qu'on a mis autour de tout ça les mesures qui font que ça ne se reproduira jamais. Daniel, j'en ai pas vu la couleur.
Daniel, malheureusement, ça va être compliqué. D'abord parce que la ministre qui, très courageusement, s'est lancée dans ce dossier, est parvenue à aller au bout de la première étape. Mais je ne sais pas si elle continuera, si elle ira au-delà. D'abord parce qu'elle est assez surprise par la contre-attaque de Le Gret et le fait qu'il veuille porter plainte. Deuxièmement, parce qu'elle va se heurter à un système qui est complètement ubuesque.
Ça sera peut-être pire pour lui, hein, la plainte.
Celui des présidents de Fédé, qui est que, une fois qu'il est élu et qu'il est en place, il est une sorte, comment dire, il devient un petit peu intouchable.
Ah ben, il est maître à bord,
on
a vu.
Parce que, de façon complètement folle, la FIFA envoie le message à tous les gouvernements dans le monde qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence politique, alors que selon moi, on devrait se foutre royalement de ce que dit la FIFA, puisqu'à partir du moment où c'est une délégation de service public, le pouvoir public et le ministre devraient avoir le droit de regarder ce qui se passe dans la fédération. Une fois que le président est élu et qu'il nomme son équipe, son gouvernement, on peut l'appeler comme ça, le COMEX, il est totalement protégé.
Bah, on parle d'État dans l'État.
Qu'est-ce qui fait qu'il peut tomber, en fait? C'est tout bête. Mais c'est ce qui se passe en 2010, quand l'équipe de France part dans un fiasco monumental en Afrique du Sud. Donc, en fait, ce qui peut faire tomber un président, c'est le terrain. Mais finalement, quand le terrain marche et quand l'équipe de France marche, il s'attribue les succès alors qu'il n'y est pour rien. Au fond, il n'y est pour rien. Allez, c'est comme quand on dit, je peux finir d'un mot, c'est comme quand on dit, je l'entends un peu partout sur les plateaux télé, le bilan financier est bon, donc le président est bon. Mais est-ce que tu sais comment rentre l'argent dans la Fédé? Les licenciés, pour premier élément. Donc les licenciés, tu sais bien comment ça marche. Ton gamin, il va vouloir aller jouer au foot si dans la télé, le joueur a brillé. Donc ça ne dépend pas du président. Ça va dépendre de Mbappé, de qui tu veux, autre star de l'équipe, Griezmann, qui vont faire que ton gamin veut sa licence. Premier. Deux, les droits télé. TF1 donne un gros chèque pour diffuser les matchs. Qu'est-ce qui fait que les droits télé augmentent? Bah parce que ton gamin, encore une fois, veut être devant la télé pour regarder l'équipe de France qui a des bons résultats. Donc au fond, même c'est pareil pour les sponsors, Volkswagen, machin, ils viennent si dans la télé ça marche. Donc le président, il y est pour rien. Donc moi quand j'entends le président, il est formidable, le bilan financier, mais Mais même un étudiant en deuxième année d'économie, il réussira à faire rentrer de l'argent dans la fédé. C'est pas compliqué de faire rentrer de l'argent dans la fédé. Ça dépend pas de lui. Ça dépend de ce qui se passe sur le terrain.
Daniel, je voudrais qu'on aille au 32-16. Si tu veux bien, on va au 32-16 retrouver Loïc. Bonjour Loïc.
Bonjour messieurs, bonjour madame.
Bonjour Loïc. Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Loïc, vous êtes agent hospitalier dans le Lot-et-Garonne.
Oui, tout à fait, agent. Oui.
Bon, Noël Le Graët, il est démis hier de ses fonctions. Dans la foulée, il dit qu'il va porter plainte contre la ministre des Sports. Est-ce qu'il va trop loin?
Ah ben largement. Moi j'ai un plan pour monsieur Le Graët. Je pense qu'il faut directement passer par la case EHPAD et l'unité Alzheimer. Parce qu'il oublie quand même que ça fait maintenant un peu plus d'une décennie qu'il escroque l'État français. En fait, comme le disait Daniel, c'est une délégation. Et il a placé autour de lui sa cour, tous ses petits copains, qui ont toujours abondé dans son sens, avec qui il a vendu des marchés publics. Et aujourd'hui, il ose dire que madame la ministre raconte des salades sur lui. Mais il a une chance phénoménale, ce monsieur. C'est qu'il n'y ait jamais un mec qui éteint la lumière lors d'une réunion et qu'il n'ait pas pris une trempe. Avec un comportement de la sorte.
Ça n'aurait pas été une bonne solution non plus.
Non, bien sûr que non. Mais est-ce que.
Non, mais ce à quoi fait allusion Loïc, néanmoins, Daniel. C'est pour l'instant, on a beaucoup parlé du management au sens large. Selon moi, et ça va arriver, puisqu'une enquête, il va également y avoir probablement, j'espère que la ministre ne va pas lâcher là-dessus, mais un audit financier. Ah. Et là, on verra également comment il a géré pendant 10 ans en donnant certains marchés. Pour, je sais pas, les pelouses de Clairefontaine ou la rénovation. Une fois par an, on fait des travaux à Clairefontaine. Parce que, soi-disant, les joueurs veulent que le papier peint soit changé, ce qui est absolument faux. Mais il y a des travaux. Donc, quand on va mettre le nez là-dedans sur les travaux qui sont faits une fois par an à Clairefontaine, sur les pelouses qui reviennent toujours au même prestataire.
Exactement.
Prestataire qui est breton. Comme
Daniel,
par hasard.
Quand je dis ça, je dis pas ça par hasard, parce que monsieur Le Graët, originaire de Guingamp, enfin, après, je veux pas crier au scandale et au complot, mais il y a des choses, il suffit juste de lire et d'essayer de comprendre pourquoi ça vient toujours aux mêmes personnes. Et comment elles font pour graviter autour de lui. Comment le Comex, il a été élu, qui y est et pour qui il vote.
Ce que disait Daniel tout à l'heure,
Noël Le Graët,
Daniel, tu n'es pas un état dans l'état d'RMC. Donc tu as assez parlé. Moi, je veux donner la parole à David qui nous appelle au 32-16. Salut David.
Oui,
et merci à Loïc. Et merci à Loïc qui nous appelait depuis Lot-et-Garonne. Bienvenue dans Estelle Midi, David. Vous êtes routier dans la Somme, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui, tout à fait.
Le Graët, il pousse le bouchon trop loin cette fois? S'il ne l'a pas déjà fait avant?
Bon, c'était déjà fait, mais là, il repousse encore un peu plus loin. Moi, je trouve ça écœurant, parce que pour les licenciés et pour nous, le football amateur, parce que moi, je suis co-président d'un club de ligue, et je trouve que c'est un manque de respect total pour les bénévoles qui se bougent tous les dimanches à amener les gamins sur les terrains ou amener les seniors ou tout ça. C'est un irrespect total. On sait très bien que Le Graët, déjà, il n'en a rien à faire de Zidane, donc le monde amateur et ses bénévoles, je pense qu'il en a strictement rien à faire. Mais c'est un irrespect total pour nous, quoi, pour nous qui bossons tous les week-ends. Parce que tout à l'heure, vous parliez du bilan financier de Le Graët qui est bon. Mais Le Graët, en 11 ans, c'est 6000 clubs en moins. Hein. Ça, faut le dire quand même. Sportivement, c'est 6000 clubs de football en moins sur 11 ans. Donc c'est une catastrophe. Parce que c'est quand même une fédération sportive, c'est pas une fédération financière. Donc c'est sûr, d'avoir du pognon, c'est bien, mais quand tu auras plus de clubs. Parce que là, il y a 6000 clubs en moins, ça veut dire 6000 cotisations en moins. Donc nous, tous les ans, on a nos cotisations qui augmentent tous les ans, pour amener du pognon à la fédération, enfin par l'intermédiaire du district, de la ligue et tout ça. Et quand j'entends ce monsieur, et hier j'étais écœuré, franchement, quand j'ai vu la réaction du Comex, franchement, quand vous voyez Olas à la sortie du Comex qui nous dit Noël a fait du travail. Non mais attendez, on se fout de qui là? Sans déconner, on se fout de qui? Et vous rendez
merci,
compte
le football
amateur, ce qu'il prend dans la tête?
Ouais. Merci David, c'est important.
Tout le football amateur et son représentant principal avait demandé la démission, beaucoup plus lucide que le monde professionnel, qui l'a beaucoup trop soutenu.
Et c'était important d'entendre David, le football amateur là, à l'antenne d'RMC. Merci David, routier dans la Somme, de nous avoir appelé au 32-16. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Noël Le Graët, qui à peine viré, parce que c'est le mot, de la Fédération Française de Football, qui porte plainte, qui dit vouloir porter plainte contre la ministre des Sports. Va-t-il trop loin, Alfred?
Vous répondez oui à 66%, non à 34%. Je finis par deux messages. D'abord celui de Chris. C'est une cabale, une fumisterie actuellement. On déboulonne les gens sans plainte ni preuve. Bon. Et puis Sébastien qui nous dit l'entre-soi à son paroxysme, ça suffit.
Allez, on n'arrête pas le progrès dans un instant avec Anthony Morel. Des robots pour pallier au manque de bras dans nos champs. C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC.
RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Tel midi, comme tous les jours, midi, 15h sur RMC et sur RMC Story, le canal 23 de la TNT si vous nous regardez en ce moment sur RMC Story. Vous le voyez, nous sommes en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris. Et nous a rejoint dans ce stand des Hauts-de-France, Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Salut Anthony.
Salut.
On va parler évidemment agriculture, bah oui, c'est le moment ou jamais. Nouvelle technologie, et la technologie s'invite de plus en plus au cœur des exploitations. Pour pallier au manque de main-d'œuvre, les robots notamment sont en train de révolutionner le secteur agricole.
Bah, c'est peut-être la solution ou une des solutions pour répondre à la pénurie de bras dans le secteur agricole. Oui, des fermes qui seront gérées, pas de A à Z évidemment, mais qui seront bien aidées.
Il y aura encore des agriculteurs,
il y aura évidemment encore des agriculteurs, mais
sinon
tu sais
tu ressors pas d'ici vivant.
Non, mais évidemment, mais tu sais que je pense que beaucoup seront d'accord avec moi pour dire que en fait il y a plein de tâches fastidieuses, répétitives, ingrates, compliquées, que plus personne n'a envie de faire. Je te donne un exemple, le désherbage manuel qui est encore très en vogue sur les notamment sur les exploitations en bio. Bah, aujourd'hui personne veut le faire, donc on va utiliser des robots. T'as un petit robot qui est présenté sur le salon là, Nayo, c'est une start-up toulousaine. Ils font des trucs incroyables, donc des robots. Alors il y en a des petits pour les vignes par exemple et des beaucoup plus gros également. Les petits, ça ressemble un peu à un robot aspirateur comme ceux qui sont chez toi à la maison, qui vont cartographier non pas ton salon mais une parcelle, et qui vont être capables, grâce à des capteurs, grâce à des lasers, grâce à des caméras, bah de faire la différence entre une salade et puis la mauvaise herbe qui est à côté de la salade.
Donc ce qui fait qu'il passe entre les rangées de salades.
Exactement.
Et il enlève
les mauvaises herbes, parce qu'évidemment il a des herses, des racloirs, enfin tout un tas d'instruments qui lui permettent de désherber comme le ferait un agriculteur
humain.
Est-ce
qu'il bute la limace?
Alors, il peut buter les limaces, effectivement. Non, mais c'est. Tu vois, le truc, c'est hyper intéressant. Alors, en plus, bon, bah, l'avantage du robot, c'est qu'il se fatigue jamais. Hein, donc, il peut bosser toute la journée H24. Et le deuxième avantage, je te dis, moins de pénibilité, évidemment, mais c'est que tu n'as plus besoin d'utiliser de pesticides, d'herbicides. En fait, puisque ce robot, en fait, va faire tout le boulot, tout simplement.
Le désherbage.
C'est un robot écolo.
C'est un robot écolo, absolument.
Le désherbage, c'est une chose, mais là où on a de gros problèmes de main-d'œuvre, c'est surtout au moment des récoltes, forcément. Ma mère, qui nous écoute certainement et qui aujourd'hui a des rhumatismes dans le dos, l'a bien connu quand elle est allée faire les vendanges.
Les vendanges?
Non, bah, pas les vendanges, évidemment. Je dis les moissons. Moi, j'étais dans les le moissons. Nord, il n'y a pas de vendanges. Mais les moissons avec mes grands-parents. Et les robots? S'il y avait eu des robots à l'époque, elle aurait été bien contente parce qu'ils arrivent à la rescousse.
Alors probablement, parce que tu as donc les robots désherbeurs, mais tu as aussi les robots cueilleurs. Et alors là, on est encore sur un truc qui est différent. Par exemple, tu as un robot cueilleur de poivrons. Alors c'est très spécifique, hein, mais en gros, il est capable de détecter, c'est de l'intelligence artificielle, hein, des caméras, le poivron dans la plantation, la taille, est-ce qu'il est suffisamment mûr ou pas, et de venir s'en saisir très délicatement. En fait, il faut reproduire la dextérité, l'agilité des doigts humains, parce qu'il ne s'agit pas d'abîmer les fruits, parce que le poivron est un fruit, j'ai appris ça, hein, Périco, je parle sous ton contrôle.
Mais non, il a des pépins, enfin des graines.
Je ne savais pas que c'était un fruit, voilà, j'ai appris ça.
Bon, enfin, bon.
Il y en a aussi pour les fraises d'ailleurs, toi non plus, tu ne savais pas. On a appris un truc tous les deux.
La tomate.
Pareil, la tomate, je savais. Même chose pour les fraises, qui est un fruit aussi, ça je le sais aussi. Donc des robots qui sont vraiment d'une délicatesse absolument dingue. Et là encore, ce sont des choses qui vont révolutionner les exploitations agricoles, et d'ailleurs qui commencent à être de plus en plus utilisées. Alors après, le seul problème, c'est que ça coûte cher. On peut les louer, il y a des systèmes de location, tu vois, un peu comme...
Ça va se démocratiser.
Et ça va évidemment se démocratiser.
Et en Australie, on teste même des robots bergers pour surveiller les troupeaux. Il faut dire que l'Australie, là, il y a de l'espace.
C'est pas les mêmes espaces que chez nous, et donc tu as des robots bergers ou cow-boys, parce que tu as pour les moutons
avec le
et
chapeau,
pour les vaches, avec le chapeau dessus, évidemment. Non, ils ont pas le chapeau en vrai. Ouais. Mais alors là encore, c'est absolument dingue. C'est dans un territoire qui s'appelle Supplejack Down. C'est une zone de 4000 m2, donc c'est la moitié de la Corse à peu près. La ville la plus proche, c'est à 13 heures de voiture. Et en fait, tu as des troupeaux à perte de vue. Évidemment, c'est très compliqué de les surveiller pour de simples humains. Et donc, tu as ces petits robots qui ont été programmés pour ça. En fait, ils sont équipés de caméras. Ils vont surveiller 150 têtes de bétail chacun. Et leurs caméras leur permettent de compter les animaux, de suivre leur température, de détecter les animaux malades. Et puis, ils ont des petits panneaux solaires pour se régénérer et s'alimenter en énergie toute la journée.
Merci beaucoup Anthony Morel d'avoir été avec nous. Tu seras encore là demain depuis ce stand de la région Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture. On parlera nouvelles technologies et agriculture toujours demain. On se retrouve donc demain, Anthony, dans un instant. L'immigration et Gérald Darmanin qui veut durcir les conditions du regroupement familial. Est-ce qu'il a raison? Vous nous appelez au 3216, c'est Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi en direct du Salon de l'Agriculture.